Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, c'est la dernière ce soir de notre semaine consacrée à des colonies. Il est des temps, il est des êtres humains pour qui la mer devient un mur infranchissable. Leurs existences s'y fracassent et avec elles nos certitudes. Mur Méditerranée, c'est le nom d'un très beau roman paru chez Sabine Vespizer. Et j'ai le grand plaisir d'avoir ce soir à notre micro Louis-Philippe d'Alembert. Bonsoir Louis-Philippe d'Alembert.
Bonsoir Patrick Boucheron.
C'est un beau titre, Mur Méditerranée, vraiment.
Merci. C'est un titre qui m'a été inspiré d'une certaine façon, si je peux m'exprimer comme ça, parce que les nazis avaient fait en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le sud, ils avaient construit toute une série de fortifications, de bunkers, de blockhouses, et qu'ils avaient appelé le Südwall, donc le rempart du sud, pour contrer le débarquement des alliés. C'est une série de fortifications qui allait de Cerbère à Menton, donc des Alpes-Maritimes, aux Pyrénées. Et je me suis dit, tiens, ça correspond exactement à ce que qui se met en place, par exemple aujourd'hui avec le Frontex, entre autres, pour contrer l'arrivée des réfugiés qui viennent du sud du monde.
Vous êtes écrivain, Louis-Philippe d'Alembert, vous êtes romancier et poète, vous êtes né à Haïti, on va y revenir, et vous publiez de ces romans documentés qui ont prise avec le réel. Si vous le voulez bien, j'en lis le tout début. La nuit finissait de tomber sur Sabrata lorsque l'un des geôliers pénétra dans l'entrepôt. Le soleil s'était retiré d'un coup, cédant la place à un ciel d'encre d'où émergeait un croissant de lune palote et les premières étoiles du désert limitrophe. L'homme tenait à la main une lampe torche allumée qu'il braqua sur la masse des corps enchevêtrés dans une poignante pagaille à même le sol en béton brut ou, pour les plus chanceux, sur des nattes éparpillées çà et là. En dépit de la chaleur caniculaire à l'intérieur du bâtiment, les filles s'étaient repliées les unes contre les autres au seul bruit de la clé dans la serrure. Au début, on ne voit que ça, des corps enchevêtrés. Et au fond, pour vous, la littérature, Louis-Philippe d'Alembert, c'est cette torche qui va permettre non seulement d'éclairer, mais de donner des noms.
De donner des noms, dans le cas précis de ce roman, de donner des noms à ceux qu'on appelle ici, de ce côté-ci de la Méditerranée, les migrants. Et dans le roman, ce sont des migrantes. Ce sont trois femmes, Shoshana, la Nigériane, Semar, l'Érythréenne, et Dima, la Syrienne. Donc il fallait donner des noms, des visages, une histoire à ces gens-là, leur donner aussi une humanité. Donc de ne pas les regrouper sous ce vocable générique qu'on nomme migrants et qui ne dit rien. Donc mon travail de romancier, ça a été d'en faire, j'ai presque envie de dire, des êtres vivants, de leur redonner leur humanité pour que le lecteur ou la lectrice ait l'impression en fait de connaître ces personnes-là, que ces personnes pourraient être une sœur, une amie, une cousine, une conjointe par exemple.
Alors dans cet incipit que je viens de lire, les filles se serrent entre elles, mais au fond ce sont trois personnages très différents, qui vont d'ailleurs pas être toujours solidaires les unes avec les autres. Et en tout cas, pour reprendre le titre d'un roman de Marine Diaye, ce sont des femmes puissantes, ces trois femmes puissantes.
Ce sont des femmes puissantes, Patrick Boucheron. Ce sont des femmes qui ont vraiment vécu des moments très difficiles dans leur vie. Ce sont des femmes aussi de trois ethnies différentes, de trois religions différentes. La Nigériane vient d'une petite communauté juive Igbo, l'Érythréenne est chrétienne orthodoxe et la Syrienne est musulmane. Donc elles sont de trois religions différentes, elles sont de trois classes sociales aussi différentes. Oui. Et les trois vont voyager sur un bateau dans trois classes différentes. Dans deux classes, pardon, mais il y en a trois sur le bateau. La Nigériane et l'Érythréenne se retrouvent dans la cale. La Syrienne se retrouve sur le pont, parce que la Syrienne vit, elle est assez aisée, elle est même une bourgeoise. Elle est originaire d'Alep, où elle vivait très très bien avant que les bombes s'abattent sur sa ville d'Alep. Donc elle fuit la guerre. Et puis sur le bateau, il y a aussi deux cabines qui représentent, mais vraiment une un groupe très restreint. Et ce groupe restreint, il y a des matelas mousses sur lesquels les gens peuvent dormir. Et mon idée au départ, c'était justement de montrer que ce bateau symbolise quelque part la planète, hein, avec une masse de gens qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et puis il y a sur le pont, ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne, plus ou moins aisée. Et puis, il y a une toute petite minorité de très, très, très grands bourgeois, de gens qui contrôlent pratiquement, j'ai envie de dire, toute l'économie de la planète.
Et évidemment, là où ce fonctionnement en microcosme fonctionne admirablement, Louis-Philippe d'Alembert, c'est qu'on va comprendre au fur et à mesure du roman que si le bateau prend l'eau, alors tout le monde est en danger, y compris ceux qui se croient sous le pont. Mais commençons justement dans la cale avec ce qu'un Sénégalais, parce que il y a toutes les nationalités, il y a toutes les langues, appelle plaisamment les calais.
Oui, c'était une note d'humour, parce que dans ce roman qui par moment peut-être très dur, il y a
beaucoup d'humour.
Aussi de l'humour, justement. Pour moi,
c'est votre manière aussi.
C'est ma manière, et c'était important de le faire aussi parce que je ne voulais pas que ces gens soient enfermés justement dans une identité de migrant. Migrant, ce n'est pas une identité. Migrant, c'est un moment dans une trajectoire de vie qui est beaucoup plus longue, et ces gens-là ont vécu une vie avant, donc il a fallu raconter cette vie d'avant, il a fallu dire que Shoshana rêvait d'être avocate avant de partir, et que son village natal a été frappé par le dérèglement climatique, la sécheresse, et qu'elle a dû partir. Il a fallu dire que Semar rêvait d'être institutrice, et que elle vit sous une dictature, et que cette dictature a et imposer un service militaire à rallonge, et que cette jeune femme, à un moment donné, a dû fuir cette dictature. Donc chacun a une raison de partir, mais pour en revenir au Calais, il est indéniable aussi que moi, en tant qu'Haïtien, en tant que Caribéen, que le passage de la Méditerranée dans la cale d'un bateau, ça me parle.
Oui.
C'est une mémoire. C'est une longue histoire, c'est une mémoire que je porte malgré moi, et d'une certaine façon. Le voyage dans la cale, ça me ramène directement à la traite négrière.
Mais aussi à votre enfance à Haïti, ou à votre jeunesse, puisque dans les années 80, on ne parlait pas de migrants, on parlait de boat people.
On parlait de boat people, et ma génération a été doublement marquée, j'ai envie de dire, au niveau international, avec ce qu'on appelait à l'époque les boat people vietnamiens qui fuyaient la guerre dans leur pays. Donc on est en pleine guerre froide aussi, hein, donc les blocs de l'Est et de l'Ouest. Et puis au niveau régional, dans la Caraïbe, il y a les Cubains et les Haïtiens qui tentent, pour des raisons politiques et économiques, de fuir et leur pays pour rejoindre les États-Unis. On se souvient, ou du moins moi je me souviens de ma génération, de 1980, quand il y a eu 125 000 personnes d'un seul coup qui est partie du petit port de Mariel à Cuba pour aller vers les États-Unis. Donc on a été marqué par tout ça, et j'ai grandi avec aussi des gens que j'ai vus partir, hein, des amis, des voisins qui ont pris le bateau pour partir et qui ne sont jamais revenus. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont arrivés? On a perdu le lien, ou bien est-ce qu'ils sont morts en mer?
Ça, vous ne savez pas.
Ça, je ne le sais pas.
Donc au fond, vous y êtes doublement, Louis-Philippe d'Alembert, dans ce roman Mur Méditerranée, par vos souvenirs, par votre mémoire personnelle et familiale, mais aussi par la mémoire historique.
Tout à fait.
Et ça, c'est effectivement la grande histoire coloniale, grande si on peut dire, en tout cas celle des bateaux négriers. Et au fond, on voit bien, à vous entendre et à vous lire surtout, que s'y joue, j'allais dire une partie, mais en tout cas une épreuve essentielle pour l'humanité, celle que Édouard Glissant a si bien décrit, c'est-à-dire que le courage de celles et ceux qui sont à fond de cale, eh bien, engage l'histoire de l'émancipation tout entière.
Tout à fait. Vous êtes historien, Patrick Bouchon, donc vous le savez mieux que moi que l'histoire participe quelque part de l'identité des peuples et des individus. Donc nous autres Caribéens, on est marqués par cette histoire-là. Et dans le roman, par exemple, j'ai mis en exergue un extrait d'un autre Caribéen, prix Nobel de littérature, Derek Walcott, et qui dit « Où sont vos martyrs? Où sont vos tombes ?» Et il dit « Là, ils sont là, dans ce caveau gris, la mer les a engloutis. » Donc on est fasciné par la mer, mais en même temps, on lui tourne le dos dans les Caraïbes.
Oui.
Peu de gens savent nager, par exemple. Moi, j'ai dû apprendre très tard en arrivant en France, par exemple. Donc il y a vraiment ce rapport, j'ai envie de dire, de fascination, mais en même temps de répulsion vis-à-vis de la mer. Donc c'est une mémoire collective qui est là, malgré nous, et que nous portons tous.
Donc cet engagement dans notre histoire, Louis-Philippe d'Alembert, vous le menez depuis ce point de vue qui est, on va dire, un point de vue atlantique d'une longue histoire des traversées négrières. Et au fond, puisque vous parliez de restituer ces vies pour qu'elles ne soient plus cet amas informe sur lequel commence le livre, bah, la vie d'avant, vous l'inventez, parce que vous êtes romancier, mais celle qu'ils subissent sur ce bateau, au fond, vous la documentez, parce que vous êtes de ces romanciers qui veulent faire une littérature du réel.
Oui, et je veux vraiment faire une littérature du réel, et je me documente énormément. Pour ce roman, par exemple, j'ai séjourné pendant un mois à Lampedusa, par exemple, où j'ai pu recueillir des informations auprès de réfugiés. Donc,
d'associations
d'accueil de migrants, auprès même du maire actuel qui est assez hostile à la présence de ceux qu'on appelle les migrants, et ils trouvent que leur présence divise ses administrés, et auprès du prêtre de l'île qu'on appelle Don Carmelo La Magra. Et puis j'ai eu la chance aussi, au moment où j'y étais, de tomber sur un sociologue italien, professeur à l'université de Gênes, Marco Aimé, qui avait beaucoup travaillé sur ce sujet-là, qui a fini par écrire un livre là-dessus qui s'appelle « L'isola del non arrivo », difficile à traduire en français, sur l'île où on n'arrive pas d'une certaine façon, et qui avait recueilli beaucoup, des dizaines et des dizaines d'interviews, qui les a mises à ma disposition. On a pu, avec Marco Aimé, par exemple, visiter le centre de rétention, je dis souvent à distance, parce que faute d'un permis, d'une autorisation délivrée par Rome, donc on n'a pas pu y entrer, mais on a pu avoir accès, entre guillemets, à un certain nombre de documents. Et surtout, on a pu rencontrer les migrants et qui ont pu passer à travers la grille ou le grillage du centre de rétention. Et comme c'était au mois de janvier, il n'y avait pas beaucoup de touristes, l'administration fermait un peu les yeux sur leur présence dans la ville. Et c'est comme ça que j'ai pu discuter avec beaucoup de migrants.
Et au fond, si ce groupe de femmes, des trois femmes, vous les choisissez pour des raisons, romanesques et littéraires, la partie de la description qui repose davantage sur les passeurs, par exemple, là on voit qu'elle est beaucoup plus hantée par le réel et qu'il y a presque une forme de reportage, on pense en particulier aux scènes terribles en Libye.
Oui, vous avez parlé de documentation, justement, j'ai besoin de cette documentation, mais c'est par souci de précision pour moi, c'est-à-dire je laisse mon imagination, mon imaginaire, si vous voulez, a besoin de cette précision pour pouvoir restituer ce réel-là. Et effectivement, j'ai voulu aussi expliquer ou comprendre d'abord pour moi-même et expliquer ce qui a poussé ces femmes-là à partir. Donc, et chacune a une raison précise, la guerre, la dictature et le dérèglement climatique. Mais en même temps, ces femmes ont une détermination, une rage de vivre en elles, qui fait que même, par exemple, pour citer une anecdote, au moment de l'embarquement, elles vont elles sont presque au point d'en venir aux mains, parce que la Syrienne se place sur le pont et ne veut pas bouger, alors que l'Érythréenne et la Nigériane ont besoin de passer. Donc cette documentation-là, pour moi, c'est important, parce que ça me renvoie encore une fois au réel, mais ça me renvoie aussi à l'histoire. Parce que en fait, nous sommes en train de vivre des moments d'histoire, peut-être, dont on parlera dans 50 ans ou dans 100 ans.
Et lorsque vous faites de Dima, donc la bourgeoise syrienne, un personnage qui est truculent, mais qui n'est pas que sympathique, et en particulier assez raciste quand même, vis-à-vis des Africains, des subsahariens en tout cas, vous témoignez sans doute d'une réalité, mais aussi d'une histoire, c'est-à-dire c'est toute l'histoire de l'esclavage et de l'esclavage, disons, arabe.
Tout à fait, parce que on a tendance à parler beaucoup plus de l'esclavage, on va dire, occidental, hein, donc, et même parfois de l'esclavage subsaharien, donc entre tribus parfois, mais on oublie parfois l'esclavage oriental qui a commencé bien avant, l'esclavage occidental, c'est-à-dire du moins sur le continent par rapport au continent africain, et cet esclavage oriental qui a fini après aussi. Donc ça a laissé des traces dans les rapports entre ces peuples-là, et même dans des pays du Maghreb aujourd'hui encore, les gens qui se trouvent dans le sud de ces pays-là sont souvent discriminés, et en Algérie. En Tunisie, par exemple, c'est des gens qui sont victimes de discrimination. Et en Tunisie, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on en parlait encore. Et donc, c'est quelque chose qui est là, dont on ne parle pas, ou dont on parle beaucoup moins, j'ai envie de dire, par rapport à l'esclavage occidental.
Alors qu'on s'entende bien, évidemment, Louis-Philippe d'Alembert, l'un n'excuse pas l'autre, l'un ne dédouane pas l'autre, mais d'une certaine manière, je dirais de votre littérature qu'elle n'excuse rien, mais qu'elle n'accuse personne.
C'est très important, Patrick Boucheron, de ne pas être dans une position d'accusation, pour plusieurs raisons. Une première raison, en ce qui me concerne en tant qu'haïtien, c'est la colonisation directe française, donc de la colonisation française de Saint-Domingue, s'est terminée il y a 2 siècles déjà. Donc il y a un peu de distance dans le temps. Donc on a eu le temps, d'une certaine façon, de digérer nous-mêmes cette colonisation, même si on en paye aujourd'hui encore les conséquences sur le plan politique et économique notamment. Et en même temps, quand on arrive avec l'idée d'accuser, on n'est pas entendu. Et il faut que l'autre puisse écouter et entendre. Et ça, c'est important. Et puis un troisième point, c'est que les responsabilités, sans vouloir dédouaner encore une fois, sont souvent partagées.
Oui.
Il y a bien sûr ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a l'ordre économique du monde comme il va aujourd'hui. On sait qui en profite, on sait qui exploite les ressources de qui et qui en profite, mais c'est souvent fait avec la complicité des élites locales. On n'est plus justement dans une période de colonisation directe. On peut être dans une phase, dans une époque de néocolonialisme, mais ce n'est pas direct. Donc, du coup, ça se fait avec la complicité aussi des élites locales. Donc, les torts, pour moi, sont partagés. Et si on veut arriver à un mieux-être, j'ai envie de dire, pour ces populations-là, eh bien, il faut qu'on en prenne conscience. Parce que souvent, quand on se voit seulement en tant que victime de l'autre, donc de l'autre, de l'ancien colon ou des anciennes métropoles, on a tendance à ne pas voir ses responsabilités dans l'histoire. Et c'est important aussi de prendre conscience de ces responsabilités-là pour qu'on puisse y avancer. Sinon, on va se draper tout le temps dans le rôle de victime et on ne prendra jamais conscience de la nécessité qu'il faut faire des efforts aussi de notre côté.
Vous avez quitté Haïti en 1986, en même temps que Duvalier.
Oui, je l'ai renversé. Justement. D'abord et je suis parti après.
Et donc là, il y a une coïncidence qui dit aussi la complexité des rapports entre la France et Haïti.
Non, les rapports entre la France et Haïti, je pense que c'est peut-être de deux ordres. C'est-à-dire, j'ai plutôt envie de dire le non-rapport. Parce oui. que ces rapports entre la France et Haïti, au fil du temps, ça s'est éloigné, ça s'est distendu beaucoup. Ça s'est distendu et d'une part au sortir, j'ai envie de dire, de la colonisation. Donc, Haïti représentait le mouton noir, si je peux le dire de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est le pays qui va oser tenir tête et gagner une guerre contre l'empire colonial français, mais en même temps qui est un mauvais exemple pour tout le continent américain. Les États-Unis indépendants, mais les États-Unis, l'indépendance des États-Unis a été faite par des Blancs qui ont continué de maintenir l'esclavage. Donc voilà que Haïti arrive comme un grain de sable dans ce système économique mondial, presque, et avec un groupe de Noirs et de Métis.
Et la révolution de 1804, c'est la révolution absolue. C'est la plus universelle des révolutions.
C'est la plus universelle. On a même, par exemple, des... J'allais utiliser le mot enragé, mais c'est le mot qu'on utilisait du temps de la Révolution française. Des gens, quelqu'un comme Billaud Varenne, hein, qui était vraiment celui qu'on appelait le rectiligne. Robespierre, c'était l'incorruptible. Lui, c'était le rectiligne. Et Billaud Varenne, qui va envoyer Robespierre et Louis XIV, par exemple, à la guillotine, à un moment donné, Robespierre va trouver refuge en Haïti, dans cette nation haïtienne, en disant que ce pays a réussi, justement, à porter la révolution jusqu'au bout.
Faut m'offrir pour moi, c'est la vie. Sob an mwenyan pa kont kon sa mpedi Fou remen ou sa va fini Mgen pou msispan pedi Kounye ya mwen gen l'esprit Mwen gen l'esprit tonè Habitant planté maïli, c'est pour gros bâtiment, l'irrité à goukouman, et le baguette doit dire kouman. Toro, on dit ratio, c'est pour Texasio, bon, mais des gouttes maléré, la caillou, yo, l'empose sotobré, avec la famille conze, chabrak, belette, LTD. Affaire diamant, roi d'Afrique, là, ça c'est secret l'état, ou fouille à porte, qu'on sape, yo va prendre l'améra. Comme Jamaïcain, les sous-tables londoniens diraient qu'ils plantaient au Vietnam. Non, je dis à un parier, la bête en ton samedi. Faut m'offrir pour moi, c'est la vie. Sauf en moi, par contre, mon samedi perdit. Fourez mon ça va fini. M'gain pour m'sis pas perdit. Mounye ya moins bien l'esprit. Moins bien l'esprit, ton air. Belle m'a fait guider qu'un Jacques Melio, l'encou madame la belle, fois mamzelle fait col belle, zouzou n'a la Paris. Mine cuve qui l'en chili yo, l'on salon à Paris, mes amis café colombien, yon, la tasse d'oiseau méchant yo, fait Nicaragua, ça pas fait M16 USA. Vieux frère, l'en zafra, y'a voyé manchette montée, coutant des jours les vrais, lancé domaine yo, y'a joué dans la nuit rivée. Miami, Bahamas, la France, n'importe côté, c'est la caille à privé. Yon les voyons rentrer, je vois que c'est à péter. Faut m'offrir ou pour ben moi, c'est la vie. Sauf en moi, en pas contre mon ça me pédit. Fourez mon, ça va fini. M'gain pour m'suspendre, pédit. Mounier à moi, bien l'esprit. Mais c'est visible pour m'prendre, même si c'est manchette, moi, qu'un même si c'est galette, ma voyée. Mais c'est visim boum boum, mais c'est visim boum boum, mais c'est visim boum boum. Belle mère guise gain Jacques Melio, la cou madame la belle, fois mamzelle fait col belle, sous-zou n'a la Paris. Mini cuve qui l'en chili yo, l'on salon à Paris, mes amis café colombien, la tasse d'oiseau méchant yo, fait Nicaragua, ça pas fait M16 USA. Vieux frère Roland Zafra, y'a voyé manchette montée, autant des jours levés, l'ancien domaine, yoye, tout dans la nuit rivée. Miami, Bahamas, la France n'est pas
ce côté. Matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de Louis-Philippe d'Alembert, qui vient de publier chez Sabine Vespizer, Mur Méditerranée. C'est un roman écrit en français, mais vous êtes aussi un poète de langue créole, et c'est du créole qu'on entend.
Tout à fait, c'est du créole, c'est d'un chanteur qui s'appelle Mano Charlemagne, qui a beaucoup marqué mon adolescence. Vous parliez tout à l'heure de la chute de Duvalier, donc de la chute de la maison Duvalier, et pendant mon adolescence, ça a été un chanteur très engagé.
Oui.
qui sera exilé en 1980, donc à l'époque j'ai 17 ans, et nous on écoutait les chansons de Manon Charlemagne, et puis on allait dans ses concerts, et qui était à risque à l'époque, et qui est revenu en triomphe après la chute de Duvalier en 1986.
Vos premiers romans, Louis-Philippe d'Alembert, sont plus autobiographiques, ils évoquent directement votre enfance à Port-au-Prince, enfance difficile, et le rapport que vous avez avec l'histoire de ce pays.
Oui, c'est comme beaucoup d'écrivains, je pense, on commence par puiser dans ce qu'on est, je n'ai jamais fait de l'autofiction en fait, mais j'ai puisé très tôt dans cette histoire-là, dans mon entourage, dans ce que je connaissais, et ce qui m'a permis d'avoir aussi quelques petite discussion très très sympathique avec ma grande sœur qui m'accusait d'avoir travesti les faits, et jusqu'à ce que je
dise... Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme.
Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, et l'autre face de la mer.
1996, l'autre face de la mer, également chez Stock. Mais en même temps, vous êtes un grand voyageur, Louis-Philippe d'Alembert. Vous avez travaillé dans différentes universités américaines, à Milwaukee, vous avez été à Rome, vous avez été à Berlin, vous avez travaillé sur le roman mondial.
Oui, j'ai eu la chance de vivre dans ces pays-là. J'ai eu la chance aussi de pouvoir lire aussi un certain nombre de littérature. J'ai travaillé sur notamment l'écrivain cubain Alejo Carpentier. Donc, j'ai fait ma thèse sur la représentation de l'autre, la représentation du noir dans l'œuvre d'Alejo Carpentier. Et ça m'a permis justement d'aller au fond de certaines histoires, entre guillemets. Carpentier, par exemple, c'est un auteur qui était hyper documenté, c'est-à-dire oui. Sur l'histoire, par exemple, il a consacré un très très beau roman à la Révolution française, Le siècle des Lumières. Il a consacré un roman aussi à la Révolution haïtienne, la Révolution de Saint-Domingue, comme on l'appelait, le royaume de ce monde, et un roman à la Révolution soviétique. Et donc j'ai été marqué par ces auteurs qui allaient puiser leur et j'ai envie de dire leur thématique dans l'histoire, et ce n'est pas par hasard que le roman précédent que j'ai publié chez Sabine Vespizer, Avant que les ombres s'effacent, aussi s'inspire de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Parlons-en d'ailleurs de ce roman, Avant que les ombres s'effacent. Il parle de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale vue de Haïti. On pourrait penser c'est mineur, et effectivement le moment où Haïti déclare la guerre au Japon et à l'Allemagne, mais en réalité ça a à voir avec toute l'histoire d'Haïti.
Oui, ça a à voir avec vraiment...
Et l'histoire coloniale.
Toute l'histoire d'Haïti, l'histoire coloniale en particulier, parce que ce qui avait frappé les Haïtiens dans le nazisme, par exemple, c'est le déni de l'autre en tant qu'être humain. Pour eux, les Juifs, ce n'étaient pas des êtres humains. Et par exemple, des premiers intellectuels, ce n'est le premier à répondre, par exemple, à Gobineau, donc l'essai sur l'inégalité des races, qui était l'un des livres de chevet des nazis, par exemple. Eh bien, ça va être un Haïtien,
oui.
Un Ténor Firmin. Qui va venir en France, il était médecin et intellectuel, et il tombe sur ce livre-là, et il va écrire... Il va répondre.
Point par point.
Oui, tout à fait, à Gobineau, et pour parler de l'égalité des races humaines. Et quand, par exemple, il y a un autre intellectuel haïtien, Jacques Roumain, le fondateur du premier parti communiste haïtien, qui va étudier en Suisse alémanique, il était déjà au courant de ce qui se passait, et ça a été l'un des premiers intellectuel à alerter le peuple haïtien et les gouvernements de l'époque sur cette réalité nazie. Et c'est ce qui va expliquer que au moment de la rencontre qui a eu entre tous les pays déviants pour trouver une solution à la question juive dont on parlait à l'époque, Haïti avait proposé et d'accueillir 50 000 juifs sur son sol, ce qui avait été combattu par les États-Unis, qui avaient peur à l'époque que parmi les réfugiés, il y ait des espions du service de renseignement de l'armée allemande.
Et ça, c'est ce que raconte votre avant-dernier roman, Avant que les ombres s'effacent, Louis-Philippe d'Alembert, cet épisode peu connu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le fait que dès 1939, Haïti accueille tous les Juifs qui en feraient la demande, précisément pour la raison que vous donnez, la raison historique, c'est que Haïti était engagé et intellectuellement engagé contre une vision raciale de l'histoire.
Et Haïti va même plus loin en prenant un décret-loi in absentia, c'est-à-dire que n'importe quel juif européen à l'époque qui en faisait la demande pouvait entrer dans un consulat ou dans une ambassade d'Haïti et demander la citoyenneté haïtienne. Donc la seule contrainte qu'il y avait à l'époque pour ces gens-là, c'était que la constitution haïtienne ne permettait pas la double nationalité, donc il fallait renoncer à sa nationalité d'origine. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que au moment où Haïti devient indépendant en 1804, il va envoyer des émissaires dans toute l'Amérique, justement, pour combattre le système colonial. Et on sait très bien que quelqu'un comme Simon Bolivar va séjourner en Haïti par deux fois, entre 1814 et 1816, sous le président Pétion, qui va lui mettre à sa disposition des hommes, des armes, de l'argent, des bateaux. Il y a des régions, par exemple, du côté de Jacmel ou les Cayes en Haïti, où il y a des chansons qui datent de cette période-là, où les gens étaient partis avec Simon Bolivar pour libérer l'Amérique. Et c'est ce qui va permettre aussi, bien des années après, qu'un pays comme le Venezuela s'en souvienne. Et il y a toujours eu un très bon échange jusqu'à, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ce qui a fait un scandale, pas uniquement en Haïti, mais dans d'autres pays d'Amérique latine, le gouvernement de Hugo Chavez, qui avait mis à la disposition des Haïtiens du pétrole à prix préférentiel, y a tout un scandale qui explique aujourd'hui en partie ce qui se passe en Haïti. Donc, c'est quelque chose qui a été là dans l'histoire d'Haïti et qui va être repris d'ailleurs dans beaucoup de livres, dont Le Général dans son labyrinthe de Garcia Marquez, par exemple, où il parle de ce séjour de Simon Bolivar en Haïti entre 1814 et 1816, et dont on parle aussi dans La fête au bouc de Mario Vargas Llosa, qui revient sur cet épisode tout en parlant du rapport entre Haïti et la République dominicaine. Donc c'est quelque chose qui a vraiment marqué non seulement l'histoire, mais l'identité, j'ai envie de dire, est du peuple haïtien.
Donc, votre littérature, Louis-Philippe d'Alembert, vous l'inscrivez évidemment dans cette littérature monde, mais on est quand même émerveillé. On a entendu l'année dernière la leçon inaugurale au Collège de France de Yannick Lahens qui faisait cet impressionnant, ce magnifique panorama de la littérature haïtienne contemporaine. Quelle intensité, quelle profondeur et quelle ampleur que cette littérature. Comment au fond on peut expliquer, pardon si ma question est si banale, mais comment on peut expliquer que cette terre de quelques millions d'habitants et assez démunie tout de même ait produit et continue à produire une littérature aussi puissante?
Oui, il y aurait plusieurs explications. On a les Haïtiens qui sont pas loin d'être chauvins, et qui n'oublient jamais, pardon, d'être chauvins. C'est, ont tendance à dire que c'est une grande puissance littéraire, Haïti. Mais j'en parlais avec des amis, il y a beaucoup de raisons. Mais l'une des raisons, c'est d'abord ce que Haïti représentait du temps de la colonisation. C'est-à-dire que cette colonie française de Saint-Domingue, qui est la colonie la plus importante de la France à cette époque, avait une vie culturelle très intense. Il y avait des troupes de théâtre qui partaient de Paris ou d'autres villes de France et qui allaient dans les colonies, mais particulièrement à Saint-Domingue, et qui y restait 6 mois ou 8 mois, qui jouait. Il y avait aussi un certain nombre de musiciens professionnels pour cette colonie. À l'époque, si j'ai bonne mémoire, il y avait autour de 300 musiciens professionnels. Et vous avez parlé de Yannick Lahens, la leçon inaugurale au Collège de France, mais même après, il y a un professeur haïtien de l'Université du Canada, Claude Dauphin, qui était venu avec des partitions de l'époque coloniale et juste après l'indépendance d'Haïti. Donc il y a une tradition, il y a une tradition littéraire, il y a une tradition culturelle. Mais il y a quelque chose d'autre qui explique aussi la présence, j'ai envie de dire, ou la forte prégnance, plus que présence, de la poésie, par exemple, en Haïti. C'est le côté urgent, si vous voulez. Ça veut dire, en temps d'urgence, souvent, et il y a comme une justification, j'ai envie de dire, à la création. On prend l'exemple de la France pendant l'occupation, il va y avoir beaucoup de poètes, du moins, moi, l'une des périodes qui me fascine le plus dans l'histoire de la littérature française, c'est cette période de la littérature de l'occupation, de la poésie de l'occupation. Et en Haïti, comme on est malheureusement, j'ai envie de dire, dans cette période d'urgence qui n'en finit pas, il y a toujours cette nécessité, ce besoin d'écrire, ce besoin de dire ce qui se passe. Ce sont deux éléments que donc cette tradition et puis cette nécessité, cette urgence dans laquelle on se trouve malheureusement depuis trop longtemps.
Parlons d'urgence justement, Louis-Philippe d'Alembert. Où étiez-vous le 12 janvier 2010 ?
J'étais à Port-au-Prince, là où je suis quand j'y vais toujours. J'ai un frère qui vit en Haïti. J'étais une histoire que j'ai racontée plusieurs fois. Il faisait très chaud, donc j'étais sorti. Je n'étais pas resté dans le salon où je travaillais. Et heureusement que j'étais sorti parce qu'il y a eu ce qu'on appelle, c'est un mot qu'on utilise plus tellement en français, ce qu'on appelle un dressoir, qui est une espèce de meuble immense avec des assiettes, des couverts, et des bouteilles, beaucoup de bouteilles. Le dressoir est tombé juste exactement là où je travaillais. Donc moi, j'étais sorti parce qu'il faisait très chaud. Et à ce moment-là, j'ai vu comment dire, la terre tremblait. Je n'avais pas conscience au départ, mais ça va tellement vite. Heureusement, entre guillemets, que j'avais eu l'expérience quelques mois plus tôt, 9 mois, du tremblement de terre de L'Aquila en Italie. Dans les Abruzzes. Et c'est ce bruit-là qui était resté. Quand j'ai entendu ce bruit très très fort comme ça, et j'ai vu l'arbre bouger, et j'ai vu le mur autour commencer à tomber, là je m'en suis rendu compte et j'ai pu m'en sortir, blessé à la jambe, mais je m'en suis sorti contrairement à d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là.
Et là encore, après, vous avez témoigné, mais vous avez témoigné également comme citoyen du monde, en comparant le séisme en Haïti avec celui des Abruzzes, dans les deux cas d'ailleurs, avec des problèmes très similaires de corruption et d'aide internationale détournée.
Oui, l'idée c'est que au moment où j'écrivais, donc le tremblement de terre des Abruzzes avait eu lieu en avril 2009, donc celui d'Haïti en janvier justement 2010, vous venez de le rappeler, Patrick Boucheron, c'était, je cherchais souvent un angle pour parler de l'Italie, un pays avec lequel j'ai un
rapport. Vous avez enseigné en Italie?
Je n'ai pas enseigné, j'ai travaillé plutôt dans un organisme international qui était l'Institut Italo-Latino-Américain. D'accord. Et puis après, juste avant, j'avais séjourné à la Villa Médicis. J'avais eu la chance, cette chance-là, de séjourner à la Villa Médicis pendant un an. Donc, je cherchais un angle pour aborder l'Italie. Et c'est le tremblement de terre des Abruzzes qui m'a donné cet angle-là. Donc, au moment où je vis le tremblement de terre d'Haïti, j'étais plongé dans le roman et sur le tremblement de terre des Abruzzes. Et mon premier réflexe, quand il y a eu une accalmie, c'était d'entrer et de retirer ma clé USB de l'ordinateur. Et du coup, le tremblement de terre d'Haïti, de l'Italie, par exemple, qui avait fait 300 ou 306 morts exactement, et qui, vu d'Haïti n'est rien, parce que celui d'Haïti avait fait entre 250 et 300 000 morts. Donc, je ne pouvais pas ne pas trouver un lien entre ce tremblement de terre-là et celui d'Haïti et celui des Abruzzes.
Et ce lien, c'est votre roman « Ballade d'un amour inachevé » qui paraît en 2013 au Mercure de France.
Oui, c'est ce roman-là qui se déroule dans les Abruzzes. Et j'imagine une femme, là aussi, une femme puissante, italienne, qui est en rupture avec sa famille et la société italienne et qui va finir par épouser ce qu'on appelle en italien un extra-communautaire, pour dire souvent quelqu'un qui vient du sud du monde, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc j'imagine l'histoire à travers ces deux personnages, donc cette femme italienne et cet extra-communautaire dont je ne parle pas de la nationalité, donc qui pourrait être haïtien par exemple.
Et là on retrouve ce thème des réfugiés. sur lequel vous venez d'écrire votre dernier livre, Mur Méditerranée. On a vu comment Louis-Philippe d'Alembert, vous vous inscriviez dans cette tradition littéraire haïtienne, mais aussi américaine, et d'une certaine manière de littérature monde. Mais avec ce qu'on appelle la francophonie, c'est plus compliqué, hein. C'est plus inconfortable.
Oui, c'est beaucoup plus inconfortable pour moi. C'est un vocable avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Parce que, pourquoi j'ai beaucoup de mal? J'ai l'impression de quelque chose, même si on s'en défend de l'autre côté, mais j'ai l'impression d'un vocable un peu péjoratif, qui envoie plus à une forme de vision néocoloniale des choses. C'est-à-dire que j'aurais préféré, par exemple, littérature de langue française, tout simplement, en mettant littérature au pluriel, parce que souvent quand on regarde ce qu'on appelle ce littérature francophone, c'est souvent la littérature des anciennes colonies. Donc je serais plus à l'aise dans les littératures de langue ou d'expression française, et ça n'existe pas, par exemple, en espagnol ou en anglais, par exemple.
Oui, il n'y a qu'en français qu'on va dire, par exemple, que Lionel Trouillot est un écrivain francophone.
Francophone, c'est-à-dire que je ne comprends pas cette séparation, ou cette catégorisation plutôt, voilà le mot. J'aurais préféré littérature de langue française, haïtienne, littérature de langue française belge, littérature de langue française sénégalaise, et ainsi de suite, parce que la langue française a effectivement des régionalismes, tout comme l'espagnol, tout comme l'anglais. Donc le mot francophone, j'ai vraiment du mal avec ce mot-là. J'ai l'impression qu'on m'insulte quand on me traite d'écrivain francophone.
Ah oui, jusque-là. C'est-à-dire que vous comprenez la position, par exemple, d'Alain Mamankou ou de Achille Bembe, qui, au fond, refuse cette injonction à la francophonie telle qu'aujourd'hui on voudrait l'imposer.
Oui, c'est pour moi, quand on parle d'écrivain anglophone, par exemple, on parle aussi bien des Anglais, des Britanniques en général, des Nigériens, des États-Unis et des autres pays qui parlent anglais ou des Canadiens de langue anglaise. Donc si francophonie entendait, par francophonie on entend tous les écrivains de langue française, y compris, Houellebecq ou bien, je sais pas, n'importe quel écrivain français, ou Jean-Marie Le Clézio, ou Paul Constant, par exemple, ça m'irait parfaitement. Mais c'est à partir du moment où on fait une catégorie et on a l'impression que cette catégorie est moindre, j'ai envie de dire, par rapport au centre. Donc, par rapport à l'ancienne métropole. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de mal.
Et là, on est au cœur de notre semaine des colonies. On n'y est pas encore tout à fait, Louis-Philippe d'Alembert. Vous écrivez en français et vous chantez en créole. Hein, je vous ai entendu pendant la musique. Vous chantez et comme poète, vous écrivez en créole.
Oui, j'ai écrit un roman en créole et que j'espère il ne me viendra jamais à l'esprit de traduire en français, à moins que quelqu'un ne veuille le faire à ma place. Et de la poésie et en créole. Ne me demandez pas, Patrick Boucheron, et quand est-ce que j'écris en français ou quand est-ce que j'écris en créole ou pourquoi. Je pense que ça dépend des moments ou de séjour plutôt en Haïti. C'est-à-dire que si je suis en Haïti pendant une période assez longue, plusieurs mois, et là je retrouve presque automatiquement, j'ai envie de dire, le créole, parce que je suis dans le bain, parce que et j'écoute de la radio, j'écoute de la musique, ou je parle en créole systématiquement, et à ce moment-là, je lis en créole, et à ce moment-là, ça me vient beaucoup plus facilement que de le faire de France.
Merci beaucoup, Louis-Philippe d'Alembert.
Merci à vous.
Matière à penser, Louis-Philippe d'Alembert, Guillaume Ledu, Justine Wild, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. La semaine prochaine, c'est le tour de Frédéric Worms et il viendra vous parler des animaux. Bonne soirée.